Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Je veux dire, je vous admire, parce que j'ai l'impression que qu'il pleuve, qu'il neige, etc., vous êtes fidèle au rendez-vous, et même quand notre gouvernement vient de tomber, que c'est un jour de grève, rien ne vous décourage. Bon, franchement, à votre place, moi, je resterai couchée. Hein. C'est la nouvelle mode en Chine. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment la qualification de la Chine de despotique par Montesquieu, après avoir été adoptée, voire appropriée par des intellectuels chinois du tout début du XXe siècle, comme Liang Qichao, a été à l'inverse, complètement à l'inverse, violemment rejetée par des intellectuels chinois d'aujourd'hui, comme le professeur Bai Tongdong de l'université Fudan de Shanghai. Alors, le professeur Bai déplore d'abord l'attitude d'auto-infériorisation ou d'auto-orientalisation qui prédomine dans... nous avons vu la dernière fois cet extrait de l'article du professeur Paet de 2016, où il s'en prend donc à notre Montesquieu pour avoir qualifié donc la Chine de despotique. Et dans cet extrait, il nous dit ceci, il cite donc un collègue historien qui s'appelle Hou Xudong. Hou Xudong souligne même que selon Qian Mu, qualifier la politique chinoise traditionnelle de despotique, zhuanzhi en chinois, c'est se rabaisser soi-même, zibi. Et selon les propres termes toujours de Hou Xudong, donc la théorie du despotisme chinois était à l'origine un dénigrement malveillant de l'Orient par l'Occident pour prouver sa propre supériorité et légitimer sa colonisation, et l'acceptation par les Chinois d'un tel récit était une auto-orientalisation, zuo dongfanghua, ce qui est à la fois ce qui fait à la fois rire et pleurer, hein, ce qui est à la fois drôle et triste, c'est que ce récit des choulou de zhongguoren, donc ces Chinois laids et vils, est toujours populaire dans la Chine contemporaine, y compris chez certains soi-disant libéraux, so-wei de zi-you-pan. Dans l'Occident politiquement correct, je crains que de tels arguments soi-disant libéraux ne soient de fait considérés comme d'un racisme anti-libéral et anti-tolérant à l'extrême. Donc là, ici, Bai Tongdong ne mâche pas ses mots. Et selon lui, c'est donc le paradoxe tragique de la qualification de la Chine traditionnelle comme despotique qui a conduit à son rejet en bloc par les modernistes qu'il appelle libéraux, donc so-wei de zi-you-pai, c'est-à-dire les intellectuels qui ne jurent que par les valeurs occidentales, rejet qui a lui-même conduit à une... c'est toujours selon Bai Tongdong, donc qui a conduit à une atomisation de la société chinoise, qui elle a ouvert grand la porte au totalitarisme. Alors comprenez ici ce que Bai désigne par là, c'est le totalitarisme maoïste qui a connu donc un paroxysme avec la révolution culturelle, d'où chez des intellectuels comme Bai Tongdong, mais il est loin d'être le seul, une détestation intense des libéraux qui jette donc ces intellectuels du côté des ultra-conservateurs traditionnalistes et même anti-communistes comme Qianmu, comme nous l'avons vu la dernière fois. Qianmu, que cite l'historien Hou Xudong dans l'extrait que je viens de relire, signalé par son anticommunisme farouche. C'est quelqu'un qui a vécu de 1895 à 1990, mais qui actuellement est remis sur un piédestal en Chine populaire du fait justement de sa défense de la tradition confucéenne. Et tout cela donc au nom de ce qu'on appelle les études nationales, le Guoxue. Donc maintenant, Qianmu, au lieu justement de passer pour un anticommuniste primaire, en fait, est érigé comme un maître des études nationales dans le contexte justement très nationaliste actuel. Et donc, Paetongdong conclut ainsi son article de 2016. Il dit ceci, donc, nous avons fait l'erreur d'apprendre de la France et du Japon et d'autres pour savoir comment passer d'une société féodale à une société post-féodale, c'est-à-dire une société moderne. C'est là sans doute la source ultime des problèmes de la Chine depuis plus d'un siècle. En conséquence, pour corriger nos erreurs, nous devrions commencer par remettre en question la théorie du despotisme de la Chine traditionnelle, donc celle qu'il attribue à Montesquieu, et par dire adieu, par dire adieu à la nouvelle culture, le Xinwenhua, et au mouvement du 4 mai, ou Siyundong. Alors, ce mouvement du 4 mai, je rappelle qu'il désigne un mouvement qui a été amorcé donc en 1919 à Pékin par des étudiants déjà sur la place Tiananmen en réaction à l'incapacité du gouvernement chinois de l'époque, qui est un gouvernement donc désormais républicain, à défendre la souveraineté de la Chine lors de la conférence de Paris, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, où les alliés, dont la Chine fait partie, ont attribué les droits et les privilèges que l'Allemagne, donc, qui est du côté des vaincus, donc, exerçait au Shandong, à l'Empire du Japon. Donc ces traités de Paris donc, sont considérés véritablement comme iniques par les Chinois, puisque en fait les Chinois sont du côté des vainqueurs et en fait on leur taille une croupière en quelque sorte au profit justement des nations vaincues comme l'Allemagne et le Japon. Alors dans un sens plus large, ce mouvement du 4 mai 1919 est également associé au mouvement de la nouvelle culture. C'est pour ça que Paetongdong les associe dans ce rejet sans condition. Ce mouvement de la nouvelle culture, c'est donc un mouvement intellectuel dont le but réside dans une transformation totale de la société, mais surtout de la culture chinoise, y compris de sa pensée, de son histoire, ainsi que de sa langue même, selon donc les normes occidentales. Et de fait, les slogans principaux qu'on entend lors du 4 mai 1919, c'est le fameux « Ta dao kong jia dian », c'est-à-dire donc « Abat Confucius et sa boutique », c'est-à-dire il y a un rejet en fait en bloc de toute la culture de la tradition confucéenne, hein, et donc une sorte de culte, on pourrait dire, pour ce que justement ces intellectuels modernistes appellent Monsieur Science, Sai Xianxian, et Monsieur Démocratie, De Xianxian, qu'on va voir réapparaître. Et alors, évidemment, c'est difficile de sous-estimer l'importance de ce mouvement du 4 mai pour la modernisation chinoise. Ça a été véritablement un tournant, hein. Et on l'a souvent décrit d'ailleurs comme les lumières chinoises, hein. C'est-à-dire que très souvent, bon, les Occidentaux, effectivement, dans leur condescendance, se tournent vers les Chinois en leur disant « Mais est-ce que vous avez eu un moment des lumières chez vous ? Est-ce que vous avez ça en magasin ?» Eh bien, écoutez, donc là, ce mouvement du 4 mai est considéré comme justement ces lumières chinoises dans la mesure où la culture traditionnelle fait l'objet d'un abandon total au profit donc de son pendant occidental, alors que l'historiographie chinoise de cette époque tend à occulter les idées de toute une partie des intellectuels dits conservateurs, comme Tianmu, qui refusent pour leur part de lier la tradition chinoise aux crises du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils font la différence, la distinction entre justement cette Chine de fait complètement arriérée, sur le point d'être supprimée de la carte du monde, hein, et la tradition confucéenne. Alors que les modernistes mettent justement tous ces mots, M-A-U-X, de la Chine sur le compte justement de la tradition confucéenne. Alors, je pense que c'est intéressant d'avoir un rapide aperçu de l'histoire chinoise du XXe siècle à travers ce qui s'est passé simplement sur cette place Tiananmen. Donc, vous avez donc 1919 avec donc ces étudiants, ces intellectuels et une partie de la population de Pékin qui manifeste donc sur la place, hein, donc pour disons en pensant à ceux qui manifestent aujourd'hui, hein, il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont pas les seuls à savoir manifester et que même les Chinois savent manifester, hein, quand ils ont la possibilité, hein. Donc vous voyez, ils agitent des pancartes, la place est absolument noire de monde, hein. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que les événements importants sur cette place ont lieu en général, c'est pas tout à fait systématique, mais en général, une année qui se termine en 9. Donc, vous avez 4 mai 1919, ensuite le 1er octobre 1949, toujours sur cette même place. Mao Zedong donc proclame l'instauration de la République populaire, hein, sur la place. Alors 10 ans plus tard, vous avez donc le mouvement du grand bond en avant, hein, qui sera le début justement de des gros ennuis donc de la Chine maoïste, hein. Mao, dans sa folie visionnaire, donc lance ce grand bond en avant qui va être entraîner une véritable catastrophe et se terminer dans une des pires famines que la Chine ait connue, hein. À peu près 10 ans plus tard, arrive la révolution culturelle, justement dans le sillage de cette famine. Et là, je vous montre une image, alors, qui n'a pas eu lieu sur la place Tiananmen, mais qui frappe quand même les imaginations, parce que il s'agit donc du père du dirigeant actuel. Le dirigeant actuel, vous savez tous, qui s'appelle Xi Jinping. Voici son père, donc Xi Zhongxun, qui qui est attrapé par les gardes rouges et qui porte une pancarte infamante qui le traite de Fantangfenz, c'est-à-dire donc d'éléments anti-parti. Bon. Là, je pense que on peut comprendre un tout petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle sous le régime de Xi Jinping en se remémorant un petit peu ce qu'il a vécu adolescent. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous sommes en 1967, Xi Jinping est un jeune adolescent à l'époque et lui-même donc sera envoyé à la campagne, comme on dit, une expérience assez éprouvante pour lui, mais qui va le marquer à vie. Hein, donc voilà. Alors juste petit clin d'œil malicieux. Quelques années plus tard, 1974, vous avez nos braves intellectuels français maoïstes. Ici, le groupe tel quel, toujours sur la place Tiananmen, ici, donc le groupe tel quel, Philippe Solers, Julia Kristeva, Roland Barthes, Marcelin Plenet, hein, donc, qui sont absolument persuadés que la Chine mène le mouvement révolutionnaire mondial, hein, et donc sont très, très enthousiastes. Ils reviennent absolument enchantés de leur visite. Bon. Comme quoi, certes, je crois qu'on leur a fait voir ce qu'il fallait qu'ils voient, mais il y a quand même une forme d'aveuglement, je pense, hein, chez certains de nos intellectuels. Dix ans plus tard, ou plus exactement, une génération plus tard, vous avez le mouvement de nouveau des étudiants, hein, sur la même place Tiananmen en avril-mai 1989. Alors vous voyez ici donc les étudiants qui brandissent cette banderole qui dit 70 ans, déjà 70 ans, c'est-à-dire 70 ans depuis le 4 mai 1919. Et ces étudiants sont parfaitement conscients que, au fond, leur mouvement est une sorte de résurgence du mouvement du 4 mai, puisque vous avez cette autre banderole, hein, qui surgit exactement le 4 mai 1989, hein, où il est fait référence à Te Xiansheng, c'est-à-dire donc Monsieur Démocratie, Te Xiansheng Nira, c'est-à-dire donc Bonjour Monsieur Démocratie, en faisant référence justement au Te Xiansheng de 1919. Et là, pour ceux qui ne lisent pas le chinois, cette banderole dit clairement ce que les étudiants veulent, liberté, la liberté. Et vous savez comment se termine la chose, donc avec les chars, hein, donc sur cette place. Alors, je profite de ce passage en revue, si j'ose dire, non pas des troupes, mais de ces images de la place, pour faire un tout petit retour en arrière. Nous venons de voir donc mai 1989. Un petit retour en arrière en octobre 1979, qui marque en fait une sorte de premier printemps démocratique. Nous sommes en fait au lendemain de la mort de Mao, du grand timonier, de l'élimination donc de la bande des quatre. Donc nous sommes donc au lendemain de la fin de la révolution culturelle. La Chine sort à peine de l'ère maoïste, et vous avez un petit groupe d'artistes autodidactes qui se baptisent eux-mêmes Xingxing, c'est-à-dire les étoiles, et qui, vous les avez ici, hein, donc vous allez les reconnaître bientôt, qui organisent donc une exposition sauvage de leurs œuvres sur les grilles du musée des Beaux-Arts à Pékin. Hein. Donc exposition sauvage parce que évidemment ils n'ont pas obtenu l'autorisation. Hein. De fait, donc c'est quand même très très osé. Et comme de juste, l'exposition est décrochée, hein, c'est-à-dire annulée par les autorités au bout de 3 jours. Hein. Mais pendant ces 3 jours, cette exposition non autorisée attire quand même à peu près 30 000 Pékinois hein, qui sont avides de s'ouvrir au monde et qui découvrent à peu près 150 œuvres qui ne relèvent plus de l'art socialiste au service du peuple, hein, mais qui sont totalement libérées du carcan idéologique et qui sont signées de ce groupe de 23 artistes qui ont pour leitmotiv donc la liberté de création. Et on peut dire que cette exposition sauvage est véritablement l'acte de création donc de l'art contemporain chinois, hein, en dehors justement de l'art officiel. Comme je l'ai dit, hein, comme de juste, enfin, il faut quand même que nous nous rappelions que nous sommes sous un régime communiste. L'exposition donc est décrochée. Et alors, en signe de protestation, ces artistes organisent une manifestation que voilà sous la bannière de ce slogan, donc. Donc une manifestation pour la protection, la sauvegarde du xianfa, c'est-à-dire donc de la loi constitutionnelle. Donc ils reprennent ici ce terme de xianfa qui existe dans le vocabulaire chinois comme nous l'avons vu depuis la fin du 19e siècle. Donc ils manifestent au nom justement de la sauvegarde des droits constitutionnels. Et vous voyez ici, donc, en première ligne, l'artiste Ma Desheng, avec ses béquilles. Ma Desheng est handicapé par une poliomyélite qu'il a contractée enfant. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours déplacé donc avec des béquilles et maintenant en fauteuil roulant. Hein. Mais ça ne l'empêche pas, et j'aime mieux vous dire, je suis témoin, de danser le rock, hein, y compris avec le fauteuil roulant. Hein, donc, voilà. Et dans la manifestation, vous avez également le sculpteur Wang Heping, qui porte une pancarte hein, qui est elle aussi très claire, Yao Yi Shu Ziyo, c'est-à-dire nous voulons la liberté artistique, nous voulons la liberté d'expression pour les artistes. Hein. Alors, cette joyeuse bande, hein, nous la retrouvons quelques décennies plus tard, hein, c'est une photo qui a été prise récemment en France. Donc vous avez de gauche à droite donc l'artiste Wang Keping, donc celui qui portait cette pancarte, Ma Desheng, donc actuellement donc en fauteuil roulant, et debout à droite l'artiste Huang Rui. Et derrière vous voyez une sculpture de Wang Keping qui s'appelle Silence. Et que vous voyez d'un peu plus près ici, vous voyez l'artiste qui pose avec deux sculptures qui sont très nettement contestataires. Donc au milieu, vous reconnaîtrez peut-être un portrait de Mao, mais sous forme de véritablement d'un autocrate hein, en bois. Et avec l'étoile rouge sur le front, et à côté donc cette fameuse sculpture Silence, où vous voyez donc un visage humain qui n'a qu'un œil ouvert et une bouche complètement bâillonnée, c'est-à-dire en fait une bouche qu'on a remplie avec un bâillon. Et vous avez sur cette photo donc l'artiste Wang Keping actuellement à l'œuvre, ici récemment en résidence au château de Chambord. Hein, il est exilé en France. Et on pourrait croire que justement les sculptures de Wang Keping sont maintenant dépolitisées. Hein, il fait beaucoup de. Il travaille toujours le bois à partir du bois brut, c'est-à-dire il attaque carrément le tronc d'arbre, quoi. Et il en fait donc des figures humaines, soit des figures de couple enlacées ou de femmes, etc. Mais on se tromperait si on pensait que Wang Keping est assagi en quelque sorte, qu'il s'est rangé. Il a accepté récemment, c'était en 2020. Pour une fois, abandonner le bois et travailler le métal pour sculpter cette chaise qui fait référence à la chaise vide laissée par Liu Xiaobo au moment de la remise de son prix Nobel de la paix. Liu Xiaobo n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Stockholm puisqu'il était emprisonné, hein, et il est d'ailleurs mort d'un cancer sans soin quelques années plus tard. Donc Liu Xiaobo, moi ça me frappe toujours parce que c'est quelqu'un qui est né la même année que moi, en 1955, et qui est mort en 2017, donc après des années de détention. Tout cela pour vous montrer justement ce parcours assez dramatique de la Chine du XXe siècle, et que Pai Tongdong voudrait d'une certaine façon effacer en revenant en arrière. Hein. C'est-à-dire Pai Tongdong et plus généralement ce qu'on appelle les nouveaux confucéens contemporains, hein, parce que pour eux, il faudrait revenir en deçà justement de tous ces mouvements libéraux, hein, ou de tous ces mouvements pro-liberté, hein, pour renouer avec la bonne vieille tradition confucéenne, ou du moins telle qu'ils l'interprètent, une tradition qui, en fait, d'un confucianisme rénové, qui s'est développée au début du XXe siècle, en même temps que, justement, le fameux constitutionnalisme inspiré de l'Occident. D'où la complexité, justement, de ce processus de modernisation de la Chine entre le XIXe et le XXe siècle, et qui n'est, à mon sens, pas encore totalement résolu. On voit bien que, justement, ce régime actuel extrêmement, comment dire, qui serre les boulons au maximum, c'est bien sûr pour, d'une certaine façon, dans l'idée que si vous serrez les boulons assez fort, ça permet de simplifier justement toute cette complexité. Hein, c'est-à-dire que bon, tout le monde la boucle en quelque sorte. Hein, c'est silence, hein, dans les rangs, et comme ça, on peut se développer dans la paix et la stabilité. Hein. Alors, tout cela m'amène à penser que décidément, ce qui s'est passé en Chine il y a un siècle a été véritablement un moment charnière, hein, c'est-à-dire le moment de tous les possibles, hein, qui a ensuite basculé dans ce que Jean-Pierre Cabestan, nous l'avons vu il y a quelques semaines, appelle le moment de rupture avec la prise du pouvoir par le Parti communiste marxiste-léniniste et l'instauration de la République populaire en 1949, qui est toujours, comme nous savons, en place et bien en place aujourd'hui. Alors, évidemment, on n'a pas manqué de s'interroger justement sur ce processus de modernisation et sur la capacité de la Chine à se démocratiser. Ça a été la grande question, en fait, au début de notre 21e siècle, hein, au moment où la Chine commençait justement à sortir de son isolement maoïste, hein, et où à la fois les élites chinoises et leurs contreparties occidentales, hein, croyaient justement ferme en une possibilité de démocratisation de la Chine. Et c'est ce qui apparaît dans ce volume intitulé donc « La Chine et la démocratie », paru en 2007 chez Fayard. Bon, heureusement, c'était avant la tournure qu'ont prise les choses chez Fayard. Hein. Donc, un volume coédité par Pierre-Étienne Ville et Mireille Delmas-Marty, qui ont tous les deux été professeurs ici au Collège de France. Pierre-Étienne Ville, ici, donc professeur honoraire qui a été titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne entre 1991 et 2014, et Mireille Delmas-Marty, juriste, donc qui a occupé la chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit entre 2003 et 2011, et malheureusement décédée en 2022. Alors, voici ce que dit Frédéric Bobin dans un compte-rendu de cet ouvrage. Je le cite in extenso parce que je pense que il a bien compris donc l'esprit de ce volume auquel j'ai participé. Alors, il écrit ceci. Il intitule son compte-rendu « La Chine et la démocratie, l'Empire métamorphosé ». Et il dit ceci: « À l'heure du réveil du dragon, de sa puissance déployée, de son irruption dans l'arène du monde, on n'entend plus guère poser la question « Et la démocratie ?» Ou plus précisément, au-delà de l'injonction politique, ce questionnement des chercheurs, y a-t-il compatibilité entre tradition chinoise et modernité démocratique? Et si oui, où repérer les connexions et les chevauchements? Admettant que l'interpellation a déserté les forums, l'historien sinologue Pierre-Étienne Ville, qui a dirigé avec la juriste Mireille Delmas-Marty cette somme sur la Chine et la démocratie, nourrie d'une vingtaine de contributions de spécialistes, s'interroge: est-ce à dire que le présent ouvrage arrive trop tard? Pour répondre aussitôt, nous sommes convaincus du contraire. On connaît les objections de ceux qui nient toute pertinence à la question démocratique en Chine. Elles sont de deux ordres. La première puise dans les thèses développementalistes. La priorité est à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, et non à une démocratisation politique qui précipiterait la Chine dans le chaos social. La seconde se réclame du culturalisme. L'héritage confucéen, fondé sur un emboîtement d'allégeances au sommet duquel trône la figure de l'empereur, condamne la Chine à l'autoritarisme. Ces deux obstacles sont de nature différente. Le premier évoque l'immaturité, le second l'infirmité, mais ils se recoupent pour tisser l'actuel argumentaire antidémocratique. Or, c'est contre cette propension à clore le débat que se dressent les contributeurs de « La Chine et la démocratie ». Ils rouvrent la question de la modernité politique en Chine en exhumant un héritage national qui est très loin d'être univoque. La complexité de l'histoire politique, même impériale, tout autant que les travaux de réinterprétation des classiques auxquels se sont livrés des auteurs néo-confucéens, sont riches en, entre guillemets, ressources et en bourgeons qui invalident l'idée d'une fatalité de la servitude chinoise, comme l'a du reste illustré avec éclat la trajectoire libérale de Taïwan. C'est à cet inventaire des potentialités démocratiques chinoises qu'invitent Pierre-Étienne Ville et Mireille Delmas-Marty au fil de cette relecture d'une histoire politique, juridique et intellectuelle plus riche et plurielle que ne le laisse à croire la vision méprisante d'une Chine monolithique. Ainsi, l'histoire chinoise ne se confond-elle nullement avec arbitraire et soumission, comme le montre encore la floraison des sociétés d'études ayant précédé puis accompagné l'expérience parlementaire de 1912-1913, sorte d'école de l'autonomie politique. Cette réévaluation de la tradition permet de mieux comprendre l'empressement avec lequel la société chinoise a tourné la page maoïste. L'héritage était là, n'aspirant qu'à être réactivé. Pourtant, si l'empereur a disparu, la démocratie n'est toujours pas au rendez-vous puisque le Parti communiste chinois s'accroche résolument à son monopole. En attendant cette introuvable démocratie, c'est autour de l'état de droit, prudemment entériné par le Parti communiste, alors là nous sommes en 2007, la situation a beaucoup changé depuis, mais dirigé par la mondialisation économique, que s'enhardissent toutes les attentes. Avec un enthousiasme non dissimulé, Mireille Delmas-Marty voit la Chine comme un laboratoire abritant des hybridations susceptibles de féconder le champ politique dans un esprit démocratique. Alors, Frédéric Bobin a tout à fait raison de modérer l'enthousiasme de Mireille Delmas-Marty en disant « on ne saurait être aussi affirmatif ». Mais on trouvera sûrement dans cet ouvrage ambitieux et exigeant matière à enrichir le regard sur le réveil chinois. Alors, il se trouve justement donc que j'ai été entraînée dans ce volume. J'ai fait une contribution précisément sur justement cette thématique des ressources ou des bourgeons ou des germes de démocratie qu'on pourrait trouver dans le confucianisme. Et pour ce faire, en fait, j'ai examiné ce qui s'est passé entre les deux générations qui incarnent en fait deux positions extrêmes. Alors, vous avez d'une part le réformisme conservateur de Kang Youwei, donc leader de la première tentative de réforme de 1898, tentative donc qui s'est soldée par un fiasco, et de l'autre, quelques décennies plus tard, l'autre extrême, c'est-à-dire la révolution prônée par Chen Tuxiu. Alors, entre les deux, vous avez des gens comme Liang Qichao, dont nous avons abondamment parlé, qui ne sont pas partisans de l'option révolutionnaire et qui, d'un autre côté, ne voient pas non plus le confucianisme nécessairement comme un obstacle à l'adoption des valeurs modernes, c'est-à-dire occidentales, telles que la démocratie ou les droits de l'homme. Alors, Liang Qichao, nous avons vu son parcours très intéressant, puisque il a d'abord était le disciple direct et le principal disciple de Kang Youwei. Et après l'échec de 1898, il a juré de ne plus jamais parler des classiques confucéens. Il a compris que c'était devenu absolument inutile de continuer à se référer aux classiques confucéens, comme son maître Kang Youwei a continué à le faire, et il a entrepris d'élaborer la théorie moderne de l'État, indépendamment donc des valeurs culturelles. Mais ce même Liang Qichao donc ne peut pas s'empêcher, dans le numéro inaugural du journal Shibao que vous avez donc en bas de la diapositive, daté du 12 juin 1904, il ne peut pas s'empêcher de citer Confucius et l'antique traité des rites en parallèle avec Darwin et Spencer. Donc ici, vous avez un exercice très très courant à l'époque de ce qu'on a pu appeler la recherche d'antécédents. C'est-à-dire que Vous avez ces intellectuels chinois qui sont confrontés donc à cette modernité occidentale qui leur arrive en pleine face de manière très 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 dominatrice et très invasive, et qui essayent de se défendre en disant oui, bon, très bien, c'est suprématie occidentale, oui, oui, enfin, c'est un fait, on n'y peut rien. Mais nous, Chinois, quand même, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes les héritiers d'une civilisation plurimillénaire. Ils n'en sont pas encore dire 5000 ans, mais enfin, bon, quand même, plurimillénaire. Et donc, qui essayent de se défendre comme ils peuvent. En disant oui, enfin les idées de Darwin, de Spencer, d'une certaine façon, nous les avions déjà il y a 2000 ans en germe. Donc ça, c'est la fameuse théorie des germes que Liang Qichao reprend ici. Et dans l'édition du 29 novembre 1911 de ce même Shibao. Qui, je crois, porte le titre de Eastern Times en anglais. Un autre éditorialiste fait la promotion du constitutionnalisme démocratique en comparant les conceptions de Montesquieu tout bonnement avec celles de Mencius. Mencius, donc héritier de Confucius au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc ce journaliste exhorte l'empereur, je cite, à regarder en arrière vers l'âge d'or des sages rois Yao et Shun. Donc ils sont des sages rois mythiques de la mythologie confucéenne, et à l'extérieur vers le modèle contemporain des États-Unis d'Amérique. Alors vous voyez un petit peu le grand écart entre Yao et Shun, donc des sages mythiques de la haute antiquité chinoise et le régime américain. Donc là, vous voyez un petit peu ces intellectuels chinois en train d'essayer véritablement de faire le grand écart entre ces deux extrêmes. On ne saurait souligner suffisamment donc l'importance de la floraison de la presse pour justement influer sur l'opinion publique. C'est à ce moment-là que les journaux commencent à fleurir en Chine. Nous avons parlé du Ximin Congbao créé par Liang Qichao dans son exil au Japon. Vous l'avez sur la gauche de la diapositive, et vous avez sur la droite donc le fameux Shibao, donc les Eastern Times que je viens de citer. Juste aussi pour vous dire, je viens de dire que les Français ne sont pas les seuls à savoir manifester, et ils ne sont pas les seuls non plus à savoir donner dans la caricature. Et là, je pense que nous avons un dessin qui est particulièrement d'actualité. Vous avez ici donc une caricature qui vous dit que quand le peuple souffle ensemble, d'un seul souffle, il a une très grande efficacité, c'est-à-dire qu'il est capable de chasser juste en soufflant donc le gouvernement en place. Si vous voulez en savoir plus sur l'art de la caricature en Chine, mais aussi ailleurs en Asie, il y a cet ouvrage tout à fait récent de nos collègues Laurent Baridon et Marie Loreillard, paru donc aux éditions Hémisphère, qui s'intitule « Caricature en Extrême-Orient, origine, rencontre, métissage », qui est paru donc tout récemment en mars 2024. La chercheuse, disons américaine, qui a insisté le plus, enfin qui a travaillé le plus justement sur cette importance de la presse écrite, de la floraison de la presse écrite, c'est une collègue qui s'appelle Joan Judge, que vous avez ici, qui est actuellement donc professeur au département d'histoire de l'Université York de Toronto, au Canada, et qui est venu en mai 2024, là aussi assez récemment, à Paris, à l'invitation de notre collègue de l'EHESS, Sébastien Weig, de donner une série de conférences. Et donc, Joan Judge est depuis très longtemps donc, la spécialiste de cette floraison de la presse écrite au début du XXe siècle. Elle a publié notamment donc, ce livre que vous avez à l'image, qui s'intitule « Print and Politics, Shibao and the Culture of Reform in Late Qing China », donc « La presse et la politique », le Shibao, donc le journal Eastern Times, et « La culture de la réforme dans la Chine de la fin des Qing », donc celle de la dynastie Manchu, paru aux presses universitaires de Stanford en 1996. Et dans ce livre, elle montre comment les contributeurs à ce journal, le Shibao des années 1910, continuent à rapporter le constitutionnalisme occidental au loci classici de ce qu'il est convenu d'appeler le Minpen Sixiang, donc ce que vous avez inscrit à l'image, c'est-à-dire cette pensée qui conçoit le peuple comme fondement de l'ordre politique. Alors, nous allons être amenés à nous attarder un tout petit peu sur justement ce Minpen Sixiang, parce que c'est quelque chose qui a encore ses répercussions à l'heure actuelle. Alors, dans un article qu'elle a fait paraître avant justement cet ouvrage, un article qui s'intitule « Public Opinion and the New Politics of Contestation in the Late Qing, 1904-1911 », donc l'opinion publique et la nouvelle politique de contestation à la fin des Qing entre 1904 et 1911, qui est paru dans la revue Modern China en janvier 1994. Donc elle nous explique comment s'est développée justement cette notion d'opinion publique en Chine, et donc l'opinion publique qui est véritablement centrale à la formation d'une véritable société civile au début du XXe siècle, par le truchement justement de ce développement de la presse écrite. Alors, je la cite. For the late Qing reformists, as for the pre-French Revolution theorists, public opinion was the motor of history and the transmuter of political structures. With opposition to absolutism as its unifying principle and the rationalization of political domination as its ultimate objective, this irrepressible force would propel China from the closed world of dynastic imperium into the open realm of public politics. The sources of authority for this new public opinion were drawn from both, I quote, the greater meaning handed down by the classics and, I quote, the major trend in the world toward freedom of expression. Alors, je traduis. Donc, pour les réformateurs de la fin des Qing, comme pour les théoriciens d'avant la Révolution française, l'opinion publique était le moteur de l'histoire et le transmutateur des structures politiques. Avec l'opposition à l'absolutisme comme principe unificateur et la rationalisation de la domination politique comme objectif ultime, cette force irrépressible allait propulser la Chine du monde fermé de l'impérium dynastique vers le domaine ouvert de la politique publique. Les sources d'autorité de cette nouvelle opinion publique ont été puisées à la fois dans, et elle cite donc le journal de l'époque, 1908, dans le sens plus large transmis par les classiques et dans la tendance majeure dans le monde vers la liberté d'expression. Donc il y a deux dimensions ici qu'elle va développer dans son article, c'est-à-dire que les ressources qui sont mobilisées ici par les éditorialistes du début du XXe siècle en Chine, c'est d'une part donc aller chercher dans le réservoir des classiques confucéens et d'autre part des sources d'inspiration dans le monde extérieur, c'est-à-dire le monde occidental, qui lui est porté vers la liberté d'expression. Et elle continue en disant que pour construire et valider le concept d'opinion publique, les journalistes chinois se sont d'abord tournés vers cette ancienne pensée du Minpun, c'est-à-dire le peuple comme fondement de la nation, qu'ils ont l'impression de retrouver chez Mencius. Donc, comme je le disais, Mencius qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, qui se réclame comme un héritier de Confucius. Et donc un essai de 1909 cité par John Judge établit un lien direct entre la presse, ce nouveau phénomène en Chine, la presse elle-même, et cette pensée du Minpun, c'est-à-dire donc du peuple comme fondement. Et elle le cite, cet essai, « La création de bureaux de presse, tenez-vous bien, était l'intention originelle des anciens sages. » Bon, alors autrement dit, en fait, genre 3000 ans avant Jésus-Christ, donc les Chinois avaient déjà tout inventé. Bon, enfin, ça c'est un peu une tendance générale chez les Chinois qui vont diront que bon, vous avez beau leur parler de n'importe quoi, de la physique quantique, etc. Ils vous diront, ben, nous on avait ça il y a plusieurs milliers d'années. Il y a cet ouvrage maintenant ancien, enfin, qui vous parle du Tao of Physics, hein, bon, le Tao de la physique. Bon, donc vous pouvez venir avec n'importe quelle théorie. Le chinois de base vous montrera que en fait on avait déjà tout ça il y a très longtemps. Et donc cet essai valide cette affirmation quand même pleine d'aplomb, hein, par une citation de Mencius qui dit précisément « Le peuple est l'élément le plus important d'une nation ». Nous reviendrons donc sur ces formules de Mencius, mais vous voyez un petit peu comment se forme donc cette nouvelle opinion publique. De la même façon, hein, dans ces éditoriaux du début du XXe siècle, la politique de masse est décrite comme datant de l'Antiquité chinoise. Et donc l'éditorialiste vous dira, je le cite, selon la méthode de gouvernement des fonctionnaires de la dynastie Zhou. Alors la dynastie Zhou, ça nous renvoie au premier millénaire avant Jésus-Christ, hein, les masses, hein, doivent être consultées sur toutes les affaires importantes. Cela est écrit dans les classiques et n'a pas besoin d'être discuté. Ensuite, John Judge a des développements tout à fait intéressants justement sur cette notion de Qing Yi, qui figure donc dans l'intitulé de la première publication journalistique de Liang Qichao, hein, donc au moment justement de l'échec de la réforme de 1898. Donc il crée ce premier journal qui s'appelle le Qing Yi Bao, c'est-à-dire donc le journal du Qing Yi. Alors Qing Yi, c'est encore une de ces expressions chinoises qui sont très difficiles à traduire parce qu'il faut, remettre dans un contexte historique compliqué et lointain. Hein, mais qingyi, on a souvent traduit ça par discussion pure, hein, ou ce que John Judge traduit par l'opinion vertueuse de l'élite, et ça fait référence en fait à un mouvement de résistance d'une partie des lettrés fonctionnaires de la fin de l'époque Han, qui était donc dominée par les eunuques proches du milieu du gynécée impérial, hein, donc qui se sont arrogé le pouvoir, et donc vous avez ces lettrés qui se rebiffent et qui protestent donc, hein, au nom justement de ces discussions pures. Pures au sens que ces fonctionnaires, eux, ne sont pas corrompus, etc. Et donc ont la vertu de leur côté. Donc vous voyez que, en fait, c'est justement toute cette émergence de la société civile, de l'opinion publique, des débats publics, hein, se fait systématiquement par référence justement à des sources anciennes qu'on trouve dans l'Antiquité chinoise et le passé impérial chinois. Et donc Joan Judge conclut dans un autre article qu'elle fait paraître dans ce volume intitulé Confucianism and Human Rights, le confucianisme et les droits humains ou droits de l'homme, donc édité par William Theodore de Barry et Tu Weiming, paru donc en 1998 aux presses universitaires de Columbia à New York. Donc vous voyez ici à l'image le grand sinologue américain William Theodore de Barry, donc 1919-2017, qui pour de bonnes raisons a l'air d'un sénateur américain, hein, et d'une certaine façon il l'est, parce que c'est quelqu'un qui a toujours justement voulu retrouver dans la tradition confucienne chinoise des germes de la pensée libérale. Ça, c'était son grand projet. Et ici, vous avez à l'image donc Tu Weiming, comme vous le voyez, d'origine chinoise, qui a, fait sa formation essentiellement à Taïwan, et ensuite sa carrière universitaire dans les plus grandes universités américaines. Et qui est maintenant en fait plutôt installé du côté de Pékin. Tu Weiming, que j'ai eu l'occasion de qualifier un petit peu de Billy Graham, du nouveau confucianisme contemporain, parce que c'est un prophète de la troisième période du confucianisme, qui essaye de nous convaincre que c'est en fait ce confucianisme rénové qui va sauver le monde. Bon, alors moi j'attends toujours que ça se passe, mais enfin c'est quelqu'un qui est une personnalité très très ouverte, très sympathique, qui n'hésite pas à dialoguer avec toutes les religions du monde possible et imaginable, mais qui vous montrera toujours à la fin que c'est le confucianisme qui a raison, hein. Bon, alors donc vous voyez donc dans cet ouvrage de 1998, qui précède de quelques années le volume en français La Chine et la démocratie, hein, que dans ce tournant des années 2000, on se préoccupait beaucoup justement de savoir comment la Chine allait pouvoir se démocratiser, et si possible en puisant dans sa propre tradition. Et alors dans ce volume, Joan Judge fait paraître encore un autre article qui s'intitule « The Concept of People's Rights, Minquan, in the late Qing », c'est-à-dire donc le concept des droits du peuple, hein, traduit en chinois Min Quan, à la fin des Qing, hein, et article qu'elle conclut par ces mots, hein, je la cite, au bout du compte, ce n'est pas l'adoption des modèles et des termes étrangers par les réformistes, mais bien plutôt la façon dont ils les ont adaptés qui est la plus révélatrice de la vision spécifiquement chinoise des droits humains pendant cette période. Et ce n'est pas la nouveauté audacieuse de leurs revendications, mais bien les échos traditionnels qu'elles continuent d'évoquer qui suggèrent le véritable potentiel de développement d'un pouvoir du peuple dans la Chine du début du XXe siècle. Autrement dit, ce qu'elle dit là, c'est que la véritable force motrice qui a derrière justement cette presse écrite, cette opinion publique, cette société civile émergente au début du XXe siècle, c'est beaucoup moins en fait l'adoption de valeurs occidentales en tant que telles que justement le retour, enfin en tout cas la recherche de ressources dans dans le grand réservoir classique confucéen. Donc ça, c'est vraiment un point, à mon avis, essentiel sur lequel je me suis un petit peu attardée. Mais vous allez voir la semaine prochaine si nous avons un gouvernement et si le Bouddha nous prédit que ce sont des débats qui ressurgissent aujourd'hui, hein, de façon très très virulente. Hein. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.